Mérant ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration.
Demande en hausse, difficultés au niveau des approvisionnements, pénurie de main-d'œuvre, les gestionnaires en épicerie ne manquent pas d'ouvrage. C'est autour d'un département spécifique que nous nous arrêtons aujourd'hui, le département du prêt-à-manger. Le prêt-à-manger, cette section qui regroupe tout type de nourriture chaude ou froide qui peut s'emporter pour consommation hors domicile, a vu ses ventes exploser en 2021 et poursuit depuis sa croissance. Bonjour, mon nom est Robert Dion, fondateur et éditeur de Détaillants alimentaires. J'ai la chance d'animer ce premier épisode d'une série de 3 qui portera sur le prêt-à-manger. Pour cela, j'ai en ma compagnie 4 invités que je vous présente maintenant. En premier lieu, Catherine Hotte, la directrice des ventes d'Emballage Carousel. On a Martin Audet, Emballage Carousel ainsi. Aussi, on a Alexandre Dumaine, directeur commercial de chez Eurodeal. Et notre marchand du jour, Jeannot Boutin, qui est propriétaire détaillant à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour cette première journée. Je suggère de commencer dans le vif du sujet en abordant la question de l'offre. Je m'adresserai à Jeannot, qui est expérimenté dans le prêt-à-manger depuis 20 de ses 20 dernières années. Jeannot, comment le prêt-à-manger s'est invité dans votre commerce il y a 20 ans? Et qu'est-ce qui a évolué, selon vous, le plus dans l'offre?
Ben moi, v'là 20 ans, c'était précurseur, c'était un dépanneur. Fait on l'a agrandi pour devenir un marché parce que on voulait développer vraiment le prêt-à-manger. Parce qu'on croyait beaucoup au futur le développement. Fait on a commencé avec une petite sandwicherie, puis une pizzeria. Puis plus que ça l'avançait, on a grandi à 5 reprises. Puis on a toujours grossi les cuisines. On est passé d'un employé, on est rendu 20 employés dans les cuisines.
Wow!
Fait, on a essayé de s'adapter à l'offre et à la demande. Tu sais, l'offre, il faut qu'elle suive la demande quand même, parce que quand tu développes de quoi, là, t'as toujours une demande de plus, puis c'est vraiment le secteur qu'on a développé. Après ça, on a greffé comme le prêt-à-manger, les prêts-à-cuire, les petits plats. Après ça, on a été avec la pâtisserie. Fait, on a développé une offre pour essayer d'avoir l'assiette complète. Qu'on peut passer de la protéine aux légumes déjà cuits ou à la sandwicherie. À cette heure, on a les poulets chauds, on a différentes choses là, qui se relient complètement à notre offre.
Jeannot, évidemment, t'es à Saint-Georges-de-Beauce, on penserait que cette offre de prêt-à-manger-là est réservée au grand centre et tout. Est-ce que ton inspiration pour trouver des nouveaux plats, des choses comme ça, vient de voyage, vient d'expérience, ou c'est surtout ce que les clients te demandaient que tu réussissais à produire pour eux?
C'est un mélange de tout, hein? Faut être curieux. Des fois, on n'a pas tout réinventé. On va dans les plus grands de ce monde, puis on regarde qu'est-ce qu'ils font, puis des fois, on fait seulement l'adapter, hein, puis on le modifie. Ça vient beaucoup des voyages aussi, puis l'écoute de notre clientèle. Puis des fois, il faut aller au-delà, en avant de notre clientèle. Il faut développer des produits là pour l'intéresser aussi, parce que si on y va juste avec les petits plats traditionnels, à un moment donné, tout le monde en fait. Il faut se développer des créneaux qui sont vraiment à nous. Puis dans le marché, il y a toujours une corde qui est plus lourde que les autres. Hein. C'est sûr là-dessus qu'il faut vraiment se développer. Il faut vraiment penser là être précurseur d'un secteur qu'il y ait moins de monde. T'sais, il y en a qui développent les sushis. Nous, on développe beaucoup les prêts à cuire et les déjà cuits. Ça dépend toujours de ta vision des choses.
Jeannot, dans votre établissement, est-ce que vous avez maintenant juste du prêt-à-manger ou vous avez encore tous les autres services qui sont disponibles dans un dépanneur?
Ah non, mais on n'est plus un dépanneur parce qu'à ce temps, on a la saucisserie, on a les fruits et légumes, on a la boucherie, on a plein de secteurs spécialisés. La microbrasserie, tu sais, comme la tabagie, ça l'offre pratiquement plus de place chez nous. C'est vraiment le prêt-à-manger.
Donc, tu dirais qu'à l'origine, tu étais un dépanneur ou une tabagie ou standard, donc où l'offre était, maintenant, ce serait 99% de ton offre qui est vraiment sur le prêt-à-manger et les choses comme ça, puis d'autres services connexes en additionnel.
Oui, parce que quand on avait la tabagie là, avec la bière, on avait 800 pieds carrés. Là, on est rendu à 15 000.
Je vais poser la question comme ça. C'était quoi ton premier produit que tu as fait en prêt-à-manger?
La pizzeria,
OK. Puis si je te demandais, c'est quoi le dernier produit que vous avez développé, le plus nouveau que vous servez maintenant, ce serait quoi?
C'est vraiment les poulets chauds qu'on vient d'embarquer.
OK. Donc,
C'est la dernière chose. Puis avant ça, on avait rien qui était dans la friture. Restant, on a développé ça.
OK.
Mais parce qu'on a commencé par tous nos produits santé, les légumes, les plats de légumes, différentes choses, là, on voulait pas avoir l'huile, mais là, on a réussi à développer des systèmes pour pas que ça sente l'huile du tout dans le magasin. Mais ça en prenait quand c'est la rapidité. C'était surtout pour ça, l'huile.
Catherine, Alexandre, Martin, si vous avez des questions aussi pour Jeannot, n'hésitez pas. Évidemment, tu sais, quand je parle de Catherine, Martin puis Alexandre, c'est vraiment des gens qui sont basés sur la technologie. Évidemment, la première fois que tu as servi une pizza, c'était dans une boîte de carton traditionnelle. Maintenant, tu dois être implanté avec plein de produits, services technologiques qu'on va revenir là-dessus, mais sûrement que ton offre prête à manger a évolué par ce secteur-là. Je vois Alexandre qui lève la main, je vois
Ben, je me demandais, Jeannot, donc tu as une cuisine qui est complète, qui est équipée, tu as des brigades culinaires qui sont là pour offrir finalement du prêt-à-manger, de comptoir chaud, comptoir froid. Mais est-ce que en tant qu'épicerie, en tant que point de vente, est-ce que tu te retrouves à aussi faire la distribution de prêt-à-manger pour d'autres producteurs locaux, des gens qui n'ont pas d'épicerie, mais des gens qui vont finalement s'appuyer sur toi pour vendre leurs propres produits?
Oui, on a distribué dans différents. Notre pizza, on a une pizza congelée aussi qu'on distribue dans différents restaurants, dont le Müller Zoo, qui est pas loin de chez nous. Peut-être que vous devez sûrement connaître, là. C'est assez populaire.
Ah ben oui, c'est dans notre coin.
Ben oui, ben toute la pizza qui se vend au Müller Zoo, c'est toute faite chez nous.
OK.
Tiens, on a les emballeuses, on a les caisses pour le transport, ça prend les équipements pour les geler rapidement, ça prend différentes opérations. Mais ça le demande un employé, des fois un et demi. Mais sur les 20, là, c'est pas. Parce que ça se produit quand même assez rapidement de la pizza, là, surtout si tu ne la fais pas cuire puis tu ne réponds pas au client, là, ça va quand même bien.
Quand vous avez décidé de vous diriger vers cette offre-là, là, est-ce que c'est les clients qui vous demandaient de diversifier votre offre ou vous avez pris les devants, vous avez vu l'opportunité qu'il y avait dans le prêt-à-manger? Parce qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup, mais il y a 20 ans, j'imagine que vous n'étiez pas beaucoup là, à vous lancer là-dedans.
Non, mais on se fait approcher, mais nous, on peut à certaines places distribuer parce que vu qu'on n'a pas de C1, il faut distribuer nous-mêmes.
OK.
Puis là, on a des approches pour produire des produits, mais là, c'est tout un nouveau système qu'on est en train de mettre en place. C'est de quoi qu'on vise dans les 2 prochaines années à avoir un C1. Mais là, c'est tout un nouveau système
Oui.
d'opération là pour.
Évidemment, C1, juste pour, c'est une cuisine de niveau 1 qui est une cuisine certifiée qui permet de vendre à d'autres personnes. Je veux juste le dire, mais de plus en plus, on voit des usines se transformer en traiteurs ou des choses justement pour pouvoir pallier.
Ouais, c'est
Est-ce
ça.
que, est-ce que, à la limite, est-ce que quand tu vas être C1, tu vas vouloir vendre à d'autres, à des restaurants locaux ou des choses comme ça? Ça fait partie des objectifs ou dans d'autres épiceries?
Ouais, on pense plus à la restauration. On
OK.
pense plus
Mais
à
la
la
restauration a
restauration.
besoin d'aide à ce niveau-là aussi,
Oui,
énormément.
c'est plus le secteur qu'on vise que le secteur épicerie. Parce que comme c'est là, tous les secteurs, quand on alimente, c'est toujours de la restauration. Puis des services de traiteur, on en fait un petit peu aussi, mais surtout pour des bières et saucisses ou des secteurs particuliers, là. On fait pas de mariage ou de décès là, avec des sandwichs, là, puis on touche pas à ce secteur-là.
C'est plus du corporatif.
Oui, c'est ça, effectivement.
J'aimerais ça embarquer dans, tu sais, évidemment, le traditionnel prêt-à-manger qu'on connaissait dans l'épicerie quand ça a commencé, c'était les nouilles chinoises, les sandwichs, les pizzas, le poulet. Est-ce qu'il y a de la demande de plus en plus pour des produits de plus haut de gamme, plus raffinés, plus travaillés? Est-ce que tes cuisiniers, ils sont amenés à peut-être se dépasser puis faire des choses qui seraient hors des sentiers battus, Jeannot?
Non, on est encore quand même, tu sais, on fait du thaï, on fait différentes choses, là, mais on n'est pas encore rendu. Parce que les petits plats, là, ça demande quand même. Là, on a de la misère à fournir la demande qui grossit. Parce que tu sais, on est passé de 2000, 2500, là, on vend 3 500 plats par semaine. Ça demande quand même une assez bonne production. Puis ça, c'est juste les petits plats, là. C'est à part tout le système de pâtisserie, les pâtés, etc. La pizzeria, on vend environ dans notre magasin là entre 12 et 1 500 pizzas par semaine. Fait
Quand même,
c'est
hein?
c'est c'est
C'est ça
ouais,
qu'elle t'additionne ça à Bluetti, à Marlan, puis toute la quête, ça en fait pas mal de pizza d'en bas, hein?
ça. Ben oui.
Mais Est-ce que, si, mettons, tu rencontrais un confrère, je sais qu'on va être au congrès de l'AMDEC ensemble, si tu rencontrais un confrère qui est un dépanneur ou une épicerie ordinaire, puis tu disais, va-t'en, est-ce que tu dirais d'emblée, va-t'en vraiment dans ce secteur d'activité-là, le prêt-à-manger, c'est l'avenir de notre épicerie, c'est là qu'on s'en va, ou tu dirais, c'est compliqué, on manque de main-d'œuvre. Comment tu vois ça, toi, le
Ben,
futur?
c'est compliqué, mais la première chose que ça prend de l'espace. Il faut que tu sois capable, parce qu'un coup que tu as commencé à développer, puis que la roue commence à grossir, faut que tu sois capable de suivre. À moins que tu fasses juste une petite cuisine et quelques sandwichs, mais si tu veux vraiment grossir ton offre, là, la première chose que ça prend, c'est ça prend beaucoup d'espace. Parce que juste l'approvisionnement aussi, là, c'est tout des gros formats. Puis quand tu veux refroidir, ça prend des grosses chambres froides, gelées, des gros congélateurs. Nous, on vient de finir de développer une deuxième cuisine qui a 30 par 60. Fait, il y en a beaucoup que juste le commerce est à peu près, l'indépendance, c'est à peu près la grandeur de leur commerce. Fait, nous, c'est notre deuxième cuisine qui est cette grandeur-là.
Évidemment, toi, tu fabriques toutes tes choses toi-même, mais un autre type un établissement similaire au tien qui serait plus petit pourrait peut-être s'approvisionner chez un traiteur X puis avoir cette offre-là de prêt-à-manger parce que ça fait partie des besoins maintenant des clientèles de venir. Y a-t-il du monde qui vient dîner chez vous ou souper chez vous
Non.
directement sur place? OK. Parce que ça, on le
Non.
voit énormément maintenant dans des établissements, des dépanneurs où ils ont des coins ou même des épiceries, des coins bistrots, des coins restaurants. Est-ce que ça, tu penses que ça va être fait partie du développement que vous pourriez faire parce que le monde a envie de manger sur place?
Pas chez nous, parce que chez nous, on a 25, on a 25 cases de stationnement pour les clients.
Ah, c'est ça,
Puis
OK.
juste le monde qui vire, on les remplit.
Je vais me tourner vers Alexandre parce qu'Alexandre, on se voit dans des voyages, dans des foires commerciales. On parlait des foires commerciales tout à l'heure. Ça nous amène en même temps. On va voir les salons, mais on veut voir d'autres concepts. Y a-t-il des concepts, toi, que tu pourrais inviter des gens comme Jeannot et autres, de dire, moi, quand j'ai voyagé, il y a prêt à manger ou d'autres concepts que tu as vus qui sont vraiment éclatés, qui font pas nécessairement de la bouffe sur place, mais qui ont une offre de prêt à manger vraiment importante?
Honnêtement, j'ai pas vu à l'étranger des choses qui, comment dire, qu'on dit, oh, c'est fait tellement mieux qu'ici. Je trouve qu'au Québec, on a quand même développé une offre de prêt-à-manger qui est extrêmement variée. La seule différence est la façon dont c'est apprêté ou la façon dont c'est, comment dire, livré au public. Et transporté vers le public et emballé vers le public. L'innovation chez nous est là, le savoir-faire est là, la technique est là. La différence, ça va être vraiment au point de vue du produit en tant que tel. Et ça, c'est typiquement culturel. Et on a une chance au Québec d'être quand même une société qui est multiculturelle. Donc un jour, on va trouver finalement des plats qui sont typiquement des Caraïbes ou des Antilles ou d'Afrique ou d'Asie qui vont se développer, qui vont se retrouver sur nos tablettes. Il suffit juste de trouver le bon opérateur pour le faire. On a vu des concepts avant de prêt-à-manger. Je sais pas si on pourrait qualifier ça de prêt-à-manger là. À l'époque, on avait les marchés Mövenpick et tout ça, qui sont une espèce de fonds prêt-à-manger où tu pouvais chercher la nourriture et l'amener chez toi aussi, ou manger sur place si tu veux. Et on a l'impression, puis ça n'a pas duré très longtemps. Je sais pas si tu te rappelles au centre-ville, comme si on n'était pas vraiment prêt pour,
Oui, tout
comme
à
si on n'était
fait.
pas vraiment prêt pour ça. Je pense que si on voit que peut-être c'est un petit peu trop gros pour ce qu'on avait, mais l'offre en épicerie. Comment dire, elle est pas si différente ailleurs, soit chez Marks & Spencer en Angleterre, ou soit dans les produits en France ou ailleurs. Tu vois souvent maintenant, c'est du skin, c'est de l'emballage, c'est des produits qui sont qualitatifs, c'est de la gastronomie, mais mis finalement dans un paquet qui est accessible. C'est aussi, comment dire, avec une présentation qui est léchée, qui est vraiment dans l'esthétisme aussi. Donc, est-ce que c'est différent ailleurs? Oui, un peu, de par la nature de la nourriture, de par finalement le contexte culturel dans lequel ce produit se retrouve, mais sinon, c'est essentiellement la même chose d'après moi.
Mais moi, je suis toujours obligé de parler d'endroits comme Whole Foods, qui, d'après moi, Amazon avait vu la notion de prêt-à-manger parce que, tu sais, ils ont fait l'acquisition de Whole Foods. Mais quand je rentre dans un Longo's en Ontario ou dans un Whole Foods et je vois que plus de 45% de leur offre alimentaire est une offre de produits que je vais appeler transformés, que du poulet rôti jusqu'aux légumes déjà hachés, donc on voit énormément On voit énormément d'offres qui s'en viennent vers ici. Puis quand je regarde les offres des grandes bannières, on s'en va vraiment là. Fait que moi, ce que je pense, c'est que maintenant, l'épicerie est maintenant de plus en plus, quand je dis l'épicerie, le produit d'épicerie est de plus en plus en offre de prêt à manger. On a des plus petites familles, on a moins de monde qui sont prêts à cuisiner, malgré qu'ils ont tout rénové leur grande cuisine. Ils font un peu moins de cuisine. Ça va être le fun parce que dans un autre balado, parce que c'est divisé en trois, on va parler beaucoup plus de la technologie, puis de revenir sur ce que tu as parlé, Alexandre, puis Martin va sûrement embarquer dans la conversation avec Catherine, mais sur le léché, la présentation, le côté dynamique de la nourriture, parce que le marketing fait vendre,
ouais.
Je vous invite, puis je parle aux auditeurs qui écoutent notre balado, à vous promener, puis à partir d'aujourd'hui, prendre le temps de regarder. Puis je pense que Catherine, Martin, Alexandre, même surtout Jeannot, quand on se promène ailleurs, ce qu'on va voir, c'est l'offre qui est disponible. Puis on réalise pas à quel point maintenant cette offre de prêt-à-manger-là est éclatée, est disponible et dynamique à tous les niveaux.
Je pense que dans ce point-là, surtout si on considère, si on peut subdiviser le prêt-à-manger en finalement pré-emballé et libre-service, si tu veux, je pense qu'au point de vue du libre-service, tu as tout à fait raison. Il y a vraiment une diversification. Puis on voit à l'étranger, tu as raison, les Whole Foods, tu vois un Whole Foods aux États-Unis, les comptoirs salades, c'est immense. Puis il y a une variété de salades qui sont disponibles, de légumes, de légumineuses, de fruits frais, de fruits pré-coupés. Qu'on retrouve rarement ici. Donc, sur ce
des
point-là,
romanesco, je moi, je suis toujours emballé des romanesco qui sont dans le comptoir. Puis leur offre de pizza, Jeannot, l'offre de pizza dans un Whole Foods est vraiment spectaculaire. Puis les pâtisseries, puis tout. Fait, moi, c'est des modèles que je regarde. Puis d'autres chaînes ici qui sont en train. Puis c'est ça qu'on est en train de voir aussi, c'est que dans certains dépanneurs américains, je vais nommer Sheetz, je vais nommer Wawa. Ce sont des endroits qui vendent de l'essence, mais qui vendent plus de l'essence. Ils vendent de la nourriture fraîche, faite sur place, puis par la même occasion, on met de l'essence. Et vois-tu comment le changement, c'est vraiment ça, tu mettais de l'essence, tu achetais de la nourriture. Maintenant, un peu comme on va attirer un homme par son estomac, mais c'est un peu la même chose. Maintenant, on attire les clients par du prêt-à-manger, par des produits prêts. Martin, je te vois élever la main, vas-y, interviens, ça me fait plaisir.
Ben, tu sais, puis je retiens un mot de toute votre conversation. Tu sais, Jeannot l'a dit en début de balado, la curiosité du tenancier ou du propriétaire fait que avec les médias sociaux aujourd'hui, puis quelqu'un qui est bien accompagné d'un partenaire, tu sais, il y en a beaucoup dans l'industrie. On en est un. Alexandre est sur la ligne, est un spécialiste équipement. Mais tu sais, quand on est bien accompagné, puis on a de la curiosité, puis on écoute notre clientèle, ben c'est là que notre offre va grandir, puis. T'sais, je vois les nouvelles générations arriver de plus en plus, puis les gens vont sur les médias sociaux, ils voient des émissions de cuisine, puis ils veulent le rapporter pour que ça soit facilement plus accessible à la communauté. T'sais. Fait que c'est ce que je trouve intéressant. Puis dans le fond, on le vit avec, c'est notre défi, nous, en tant que distributeurs, de piquer la curiosité du client, qui est soit le restaurateur ou l'épicier, pour dire hey, passe le gap de la sandwich, tu sais, on est capable de t'aider à passer ce gap-là, puis on va te montrer que c'est pas si dur à passer, tu sais, c'est ça l'idée.
Mais tu sais, dans les questions qu'on avait préparées, on voulait savoir à quel point l'offre de prêt-à-manger est mature, puis j'aimerais en conclusion avoir votre commentaire là-dessus, chacun en disant est-ce que où on en est, puis qu'est-ce qui nous reste à accomplir dans l'offre nourriture, l'offre présentation, l'offre service de prêt-à-manger. Je vais commencer par Catherine. Toi, tu vois ça comment, le futur du prêt-à-manger, nourriture?
Je pense que c'est en constante évolution, là. Comme on disait, on est dans une boucle où les gens cherchent à se diversifier. Puis, il reste un gros niveau d'éducation à faire, comme Martin disait, sur l'accessibilité à cette diversification-là. Fait qu'à peu près tout type de commerce, là, on a des boucheries qui évoluent vers le prêt-à-manger, on a des dépanneurs qui évoluent vers le prêt-à-manger, on a des marchés qui grossissent, on a des petits traiteurs qui deviennent carrément des transformateurs alimentaires. Fait que, tu sais, il y a vraiment une place pour tout le monde là-dedans. Fait que, tu sais, la technologie va venir au service de la diversification puis de la main-d'œuvre, puis inversement, là, la curiosité des gens puis le train de vie de la communauté d'aujourd'hui fait en sorte qu'on cherche des solutions, on cherche à se diversifier, on cherche à se recréer pour se différencier. Fait que, je pense que on est loin de on est loin d'avoir atteint le potentiel de l'offre qu'on a. Puis Alexandre l'a souligné aussi tantôt, tu sais, on a une diversité culturelle qui est là aussi. Fait que la variété de produits qu'on peut retrouver dans différents types d'emballages, tout en respectant l'environnement, en augmentant la conservation, c'est là aussi, puis c'est accessible.
Alexandre, je te laisse prendre la balle au bon pour dire où tu penses que c'est toi, ton versus l'offre. Puis j'aime la notion de diversité, Catherine.
Bah, je pense que Catherine a raison. C'est pas est-ce que l'offre est mature? C'est comme de poser la question, est-ce que l'offre en restauration est mature? Je veux dire, c'est du renouvellement constant, c'est du cycle en évolution constant, c'est de l'innovation constante. Et ça va toujours finalement s'appuyer sur les tendances culinaires. Il y aura toujours des nouvelles choses. Est-ce qu'il y aura un exploitant ou un opérateur qui va remettre en tendance la cuisine, on pourrait dire, old school de la française, et qui vont sortir des tendances de nourriture qui finalement sont de la cuisine de proximité en s'établissant finalement sur des producteurs locaux? Est-ce qu'il y aura, je veux dire, je peux ressortir 150 concepts de nourriture qui n'ont pas encore été exploités et qui éventuellement vont l'être, et puis on va en voir disparaître, puis on va en voir apparaître. Essentiellement, c'est du darwinisme commercial pour l'alimentaire qui va être constant là. Donc ce qui va être tendance à fonctionner, ce qui va l'être moins va tendance à disparaître. Ces opérateurs vont être appelés finalement soit à renouveler leur offre ou passer à autre chose, puis il y en a d'autres qui vont prendre leur place. Puis de l'autre côté, finalement, il y aura une évolution chez les équipementiers et les gens qui offrent finalement la possibilité de donner accès au marché, de mieux aussi pouvoir le faire. Donc, ce sera une constante évolution. Les tendances alimentaires, maintenant, bon, tu sais, il y a toujours un paquet de spécialistes qui vont pouvoir les établir. Est-ce qu'on va voir des choses maintenant qui, on parle souvent de produits organiques? Peut-être que prochainement, ça va être les produits qui ont un impact climatique moindre. Tu sais, peut-être qu'on va sortir de la cuisine avec impact climatique neutre, puis ça va être la nouvelle tendance. C'est-à-dire, donc, est-ce que c'est l'offre immature? Non. C'est une tendance, ça va être toujours en constante évolution, d'après moi, là.
Martin, je te laisse continuer.
Ben écoute, j'aborde un peu dans le même sens que mes confrères sur la ligne. Dans le fond, ça prend plus des gens comme Jeannot qui sont prêts à agrandir leur offre. C'est des choix pas toujours faciles. Si je me mets dans la peau d'un exploitant qui connaît, tu sais, qui est dans ses pantoufles, de dire que bon, il connaissait ses produits, il connaissait qu'est-ce qu'avait besoin de ses clients, puis là, ben les générations arrivent, les plus jeunes, les moins jeunes, puis l'offre change, puis on se dit oh, ok, faut que j'évolue, faut que je continue à évoluer. Je suis content de voir que après tout ça, qu'il y a encore des gens comme Jeannot après 20 ans qui sont encore prêts à évoluer, qui sont encore prêts à investir dans le commerce. On se le rappellera après une pandémie qui n'est pas toujours facile pour tous. Fait que ça m'encourage, mais non, l'offre est vraiment pas à maturité. Puis il manque pas de couleurs, il manque pas de mai à venir, je suis convaincu.
Tu as amené la notion de pandémie parce qu'évidemment, on l'a dit en entrée que la pandémie avait propulsé les ventes. Quand j'ai eu à parler à des clients, des gens qui disaient on va se retirer un petit peu de l'offre prête à manger, on va revenir vers notre offre traditionnelle parce que la pandémie est terminée, puis les chiffres le prouvent. Il n'y a pas de baisse dans l'offre, il n'y a pas de baisse dans les ventes, il n'y a pas de baisse dans l'innovation. À ce niveau-là. Jeannot, est-ce que tu es disponible pour nous donner le mot de la fin sur cette catégorie-là ou on passe Jeannot de retour. Jeannot, je te laissais conclure sur la fin, sur un peu la maturité de ton marché. C'est toi qui est notre spécialiste aujourd'hui sur justement la maturité du marché. Toi, tu parlais déjà d'investissement et tout. Est-ce que tu continues à voir des choses qui vont avancer pour toi?
Oui, ben nous, tu sais, on travaille beaucoup le prêt-à-manger. Et nous, qu'est-ce qu'on travaille beaucoup aussi, c'est l'offre pour la famille, pour le repas familial. Donc, le prêt-à-cuire. Tu sais, nos légumes sont déjà tous préparés, sont prêts à réchauffer. Les coupes de viande sont prêtes, sont déjà dans des assiettes d'aluminium, prêts à mettre au four. Nous, qu'est-ce qu'on veut développer, c'est qu'une petite famille peut arriver par un repas frais qui sort du four en 15 à 20 minutes. Et c'est vraiment la tendance qu'on veut.
Puis ça va être, puis au lieu de manger du fast food, manger de la nourriture fast.
Bon, oui, on a différentes choses. Les roast beef déjà pré-cuits avec les assiettes de légumes. On a les salades César avec le poulet dessus, le bacon, tout est prêt à mélanger. On essaie d'y aller avec un offre extrêmement rapide. Parce que la réalité, c'est que les familles d'aujourd'hui, là, tout se passe vite, ont deux carrières professionnelles, ils ont des jeunes enfants, ils ont des cours. Fait, c'est la rapidité qui va amener vraiment là, du repas, puis la qualité du repas qu'on est capable de leur offrir en très peu de temps, là, c'est ça qui... C'est l'offre qui va nous aider à nous développer.
Bien, c'est ainsi que se termine le premier épisode sur le prêt-à-manger en épicerie. Deux autres épisodes sont disponibles sur detailalimentaire.com, section balado, la technologie au service du prêt-à-manger et la mise en marché. Nous espérons que vous avez apprécié ce contenu. Je remercie encore une fois chaleureusement nos invités pour la richesse de ces échanges. Merci.